Coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Merci de m'accompagner pour cette édition de l'ère du temps. Et justement, parlons-en de ce temps, car je suppose que vous avez remarqué qu'il est en train de bien s'installer. En effet, on dit au revoir à l'été qui nous a donné beaucoup de chaleur cette année, voire quelquefois des températures irrespirables. Et on dit bonjour à l'automne. Alors il paraît que c'est une belle saison et qu'il ne faut pas dire tout simplement « Tiens, aujourd'hui c'est l'automne » parce qu'il y a tant de belles façons de le vivre en France et de le dire en français. C'est vrai que c'est une saison qui inspire et les auteurs, et les peintres, et les chanteurs.
S'étendre dans les draps de la chambre, et déjà nous voilà fin septembre. Je sais bien qu'il viendra pour me prendre un peu de toi dehors. On l'aperçoit qui se cambre et recouvre les toits d'or et d'ambre. C'est le vent qui l'envoie. Que les ombres, je t'en prie, montre-toi moins sombre à mon endroit. Faisons feu de tout bois sans attendre. Ne laissons pas le froid nous surprendre. Sois fort et tendre, parfois l'automne est là, l'automne est là, l'automne est là, ah, étonne-moi. septembre. Je sais bien qu'il viendra pour me prendre. Un peu de toi, l'automne est là. L'automne est là. L'automne est là. Ah, ah, étonne-moi. L'automne est là. L'automne est là. Ah, 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 étonne-moi. Étonne-moi. Étonne-moi.
Victor Laszlo sur Radio Plus. Et oui, l'automne est là, alors saluons-le comme il se doit, mais surtout saluons la nature et rappelons qu'il nous faut la respecter. Alors dans notre rubrique Saletant sur la planète, Jean-Louis Ouatté, président de l'Étrême Nature, reviendra sur un sujet chaud, comme on dit, tellement chaud et d'actualité que nous y consacrerons quelques semaines sans doute. Alors je veux parler bien sûr des pesticides. Comme vous le savez, une majorité de Français est opposée à l'utilisation des pesticides. Une consultation officielle permet actuellement, et ce jusqu'au 1er octobre 2019, de donner son avis sur l'utilisation agricole des pesticides. Alors les pétitions circulent et c'est pour la bonne cause, bien évidemment. Mais voilà que les agriculteurs ripostent, et à partir d'aujourd'hui, des agriculteurs d'une bonne vingtaine de départements prévoient des actions pour protester contre le projet de mise en place de zones de non-traitement qu'on appelle des ZNT, destinées à protéger les populations contre les dangers potentiels des produits phytosanitaires. Alors, avouez que cela mérite quelques explications, car je suppose que comme moi, vous ne comprenez pas toujours tout. Alors, bien évidemment, on ne demandera pas l'avis de Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, car on le connaît, bien évidemment. Mais je pense qu'il ne pourra pas faire autrement que de nous dire ce qu'il... de donner ses convictions. Lui, le grand défenseur de la culture au naturel. Alors, il nous donnera ses astuces et ce sera tout à l'heure vers 9h30. Et puis, lui aussi a beaucoup de respect pour la nature, pour sa faune et sa flore qu'il prend beaucoup de plaisir à photographier. Et d'ailleurs, chaque année, il nous invite à l'exposition photo à Anzin qui se tiendra pour 2019 du 27 au 29 septembre dans la salle des sports. Et Jean-Philippe Robert sera avec nous en fin d'émission pour nous en dire plus. Et allez, chanson pour nos trois intervenants tellement près de cette nature. Chanson avec Florent Panier.
On manque d'air dans les villes, presque autant que de rêves. On s'agite immobile dès que le soleil se lève et jusqu'au soir qui tombe. Le temps use nos visages, creuse nos rides, nos tombes, chaque jour davantage. On court, on court, on court, on dit qu'on n'a pas le choix. On court après l'argent, on court le cœur sans joie. On court après du vent, après n'importe quoi. On s'aperçoit qu'au bout, c'est le temps qui court plus vite que nous. Allez, stop, allez, on met les voiles, cap sur du vrai, du beau. Il vaut mieux un cheval que 230 chevaux. Allez, stop, c'est la fin de la course. Un petit lopin de poule et trois lapins, retour aux sources. Comme dit le vieux Voltaire, cultivons nos jardins. Stop, et revenons. On étouffe dans les villes, loin de notre nature. Nuages automobiles, du goudron et des murs, les bébés tous et pleurs. Quant aux vieux, ils suffoquent, alors pour pas qu'ils meurent, on leur vend des médocs. On court, on court, on court, après la bourse, le CAC. On court après les cours et puis un jour on saute à côté de la plaque. Peut-être qu'on a faim d'autre chose que d'affaires. S'asseoir, se taire et voir qu'il y a tout un monde à refaire. Allez stop, allez on met les voiles. Cap sur du vrai, du beau. Il vaut mieux un cheval que 230 chevaux. Allez stop, c'est la fin de la course. Un petit lopin. Voltaire, cultivons nos jardins. Stop et revenons sur terre. Sur terre. On reprendra le pouvoir sur le cours de nos vies. On sèmera de l'espoir en graines de paradis. Peut-être qu'on a faim d'autre chose que d'affaires. S'asseoir, se taire, faire comme la mirabie, la part du colibri. Allez stop, allez on met les voiles, cap sur du vrai, du beau. Il vaut mieux un cheval que 230 chevaux. Allez stop, c'est la fin de la course. Un petit lopin, deux poules et trois lapins, retour aux sources. Comme dit le vieux Voltaire, cultivons nos jardins. Et revenons sur terre. Sur terre. Et revenons sur terre. Sur terre. Et revenons sur terre.
Eh bien, c'était, comme je vous l'ai dit, Florent Pagny sur Radio Plus. C'est extrait de son nouvel album « Aime la vie ». Alors, notre enquête dans l'air du temps, une enquête qui intéressera sans aucun doute Jean-Louis Ouatté, dont le maître mot de son association est la biodiversité. Et oui, c'est un champignon qui est devenu le pire tueur des amphibiens. En décomposant la peau des grenouilles et des salamandres, ce champignon microscopique décime depuis 1965 les populations d'amphibiens. Alors, il s'appelle... soyons un petit peu scientifiques, le B d'Anthrobatidis, et ce serait, selon l'équipe internationale, la perte de biodiversité la plus importante jamais observée. Et il faut savoir que depuis 1965, eh bien, il y a eu 90 espèces d'amphibiens éteinte. Et depuis 2009, ce champignon microscopique pathogène frappe aussi l'Europe. Les amphibiens, rappelons-le, sont d'une utilité écologique reconnue, car grands consommateurs d'insectes, et ils sont protégés par la loi. Les facteurs de déclin des amphibiens sont divers et l'homme en est bien souvent responsable. Alors, garant par leur présence de la santé de nos écosystèmes naturels et de la biodiversité, les amphibiens nous informent sur les atteintes portées à notre environnement, sur la qualité de l'eau, mais également sur l'impact du réchauffement climatique. Et bien voilà, donc il est temps surtout de mieux les connaître, de mieux connaître ces amphibiens afin de les protéger. Et bien sûr, l'enchaînement est tout trouvé. Tout de suite, j'accueille Jean-Louis Ouatté pour ce sujet brûlant des pesticides.
Sur la planète. Oh, le drôle, de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution, opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Les agriculteurs d'une bonne vingtaine de départements prévoient à compter d'aujourd'hui des actions pour protester contre le projet de mise en place des zones de non-traitement, les ZNT comme on les appelle, destinées à protéger les populations contre les dangers potentiels des produits phytosanitaires. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Alors, sujet chaud traité avec vous ce matin. Nous commençons aujourd'hui dans Saletant sur la planète notre feuilleton pesticides. Car bien sûr, 10 minutes de cette rubrique ne suffiront pas à traiter ce sujet épineux, comme on va dire. Alors d'abord Jean-Louis, et c'est tant mieux, bon nombre de Français sont opposés à l'usage des pesticides et pour cause. Ils connaissent l'impact sur notre santé et vous nous rappelez leur dangerosité.
Ben oui, parce qu'il faut savoir qu'un pesticide, c'est une substance chimique, le plus souvent, qui vise à détruire une ou plusieurs espèces d'êtres vivants. Alors les plus répandus, c'est les herbicides contre les mauvaises herbes, les insecticides contre les insectes, les fongicides contre les champignons. Mais il existe aussi beaucoup d'autres variétés de pesticides, que ce soit contre les rongeurs, les corbeaux, etc. Donc les dangers sur l'environnement sont nombreux. Parce qu'en plus de tuer l'espèce visée, ils peuvent aussi très bien contaminer et tuer les autres acteurs de la chaîne alimentaire. Prenons les oiseaux par exemple. Ils sont très souvent atteints par les pesticides en mangeant les insectes contaminés. De plus, ces pesticides polluent l'air que nous respirons. Et ça peut être aussi le cas des réserves d'eau au point de les rendre non potables. Donc c'est difficile de quantifier avec exactitude tous les méfaits des pesticides sur la santé, mais beaucoup de dangers sont déjà connus. Même avec une faible exposition, ces pesticides peuvent avoir de graves conséquences sur l'organisme, comme par exemple provoquer l'infertilité masculine, des cancers, mais aussi atteindre gravement les fœtus. Ça peut provoquer des avortements spontanés, de graves malformations fœtales, et puis de nombreux cas d'intoxication aiguë aux pesticides, même parfois mortels, ont déjà été décelés en milieu agricole, où, bien entendu, c'est là où l'exposition aux pesticides est la plus importante.
Alors, justement, connaissant cette opposition, cette opposition du public, on va dire, le gouvernement a lancé une consultation sur l'utilisation des pesticides. Alors déjà, Jean-Louis, je me permets de dire que je trouve cette consultation un petit peu saugrenue, puisque c'est presque demander aux Français s'ils veulent voir leur vie raccourcie ou s'ils veulent l'avoir un peu plus long, quoi. Mais bon, peut-être qu'après tout, certains préfèrent mourir plus vite. Quoi qu'il en soit, puisqu'elle existe cette consultation, on ne peut qu'exhorter les gens à y participer. Et attention, il faut le faire avant le 1er octobre. Mais justement, le faire comment, Jean-Louis ?
Je veux dire que déjà, au-delà de la distance, puisque c'est la question qui est posée, minimum à respecter, je pense que cette consultation est importante parce qu'elle scelle dans la loi la dangerosité des produits phytosanitaires qui sont épandus. Et donc c'est, à mon avis, très important d'y participer parce que ça va être officiellement écrit dans un texte de loi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les grands lobbies agroalimentaires, industriels, chimico-industriels s'y opposent fortement parce que c'est écrit dans la table et là, ça va rester. Donc, moi, je conseille au public, même si on peut avoir des réserves, si on peut la trouver saugrenue, je conseille d'y aller. Il suffit d'aller sur Internet avec un moteur de recherche, écrire « consultation publique pesticides ». Et ce, faut pas l'oublier, avant le 1er octobre. Alors, ce qu'on nous demande, moi, j'y suis allé, on vous demande de choisir un titre. Bon, ça peut être pas d'épandage de pesticides à moins de 50 mètres des habitations ou un autre dispense, peu importe. Il faut rédiger un petit texte, qui n'est pas obligé d'être long, pour écrire son choix et puis le justifier. Et puis ensuite, on donne son adresse mail. Je pense que c'est une démarche qui est importante parce que, justement, ça va marquer, justement, la dangerosité de ces produits.
Donc on tape consultation...
consultation publique pesticides.
Voilà.
Et puis... Et après,
on se laisse guider.
Et on l'a directement, et donc on a un texte de présentation, et à la fin, on demande notre participation.
D'accord. Alors, autre problème, ayant conscience de la dangerosité de ces produits phytosanitaires, certains maires, comme celui de Langouette, interdisent l'utilisation de pesticides à moins de 150 mètres des habitations, et ce, bien sûr, pour protéger les habitants de leur commune. Mais alors, ces maires se retrouvent devant un tribunal pour avoir outrepassé leurs droits. C'est incompréhensible, Jean-Louis.
C'est le jeu de la loi, en fait. Il y a des textes de loi. Si les maires vont au-delà de ce texte de loi, ben évidemment, leurs propositions, leurs textes sont contrecarrés, mais je pense que c'est important qu'ils le fassent. On l'a déjà vu il y a quelques années sur les OGM. Il y a eu aussi des maires qui se sont retrouvés au tribunal et puis les arrêtés municipaux ont été cassés sur les distances minimales pour les OGM. Mais je pense que ça fait avancer le débat public et c'est important, même si c'est obligatoire, puisque tous les arrêtés municipaux doivent passer au service de validation à la préfecture. Ça veut dire que il faut que on contrôle en préfecture ou en sous-préfecture que ce soit bien dans l'esprit de la loi. Alors évidemment, la loi, pour l'instant, ne donne pas de distance minimum, donc forcément c'est hors la loi. Mais je pense que c'est important que ces maires prennent leurs responsabilités et publient cet arrêté. Et puis bon, il y a quand même un éclairage médiatique important, puisqu'on a bien vu les maires de cinq grandes villes en ont fait autant.
Alors justement, j'en reviens à la consultation publique. Le gouvernement va proposer de fixer à 5 ou 10 mètres, selon le type de culture, la distance minimale entre les habitations et les zones d'épandage de produits phytosanitaires. Donc une distance de très loin nettement inférieure à celle réclamée par certains maires responsables et soucieux de la santé de leurs administrés. Ou même, alors cette distance peut être même ramenée quelquefois à 3 mètres. Là c'est une plaisanterie, Jean-Louis. 3 mètres.
Je pense que j'ai mon téléphone qui sonne et j'arrive pas à l'arrêter. Cette distance minimum n'a pas de grand sens, parce que il y a de nombreux paramètres qui entrent en jeu. Donc c'est déjà la météo, le profil de terrain. Et puis surtout, je pense, la qualité du matériel d'épandage. Donc la propagation des produits va dépendre de beaucoup de facteurs. Et donc, c'est difficile de dire 5, 10, 15, 20 mètres. Tout dépend de la condition. Moi, je pense qu'il y a un facteur qui me paraît important, c'est le matériel d'épandage. Il serait nécessaire d'avoir un contrôle de ce matériel. Ça me paraît fondamental, parce qu'un matériel mal réglé, c'est des dérives évidentes, c'est des brouillards de dispersion. Alors qu'on mette 5, 10 mètres, c'est pas grand chose, et donc par conséquent l'important c'est le matériel, et puis que les conditions soient respectées, la météo aussi c'est important, puisque il suffit qu'il y ait un peu de vent, il suffit d'un temps avec un petit peu de brouillard, tout ça joue beaucoup. Et donc l'histoire de la distance c'est pas très facile à régler. Donc, il faut choisir. Je veux dire que dans l'enquête, moi, j'ai mis 15 mètres, mais j'aurais pu mettre 50.
Je mettrais 150, voyez.
Oui, ou 150. Mais de toute façon, moi, c'est ce que j'ai écrit. J'ai écrit que l'important, c'est que ce soit écrit dans la loi. Et puis, c'est important aussi qu'il y ait un contrôle du matériel. Ça me paraît fondamental. Malheureusement, on est quand même maintenant dans une période où il y a de moins... Les contrôles sont de plus en plus difficiles, parce que il y a de moins en moins de fonctionnaires pour le faire. C'est aussi la dérive, on dit il y a beaucoup de fonctionnaires, trop de fonctionnaires, mais voilà, ça joue aussi sur les contrôles.
Oui, et puis certains épandages se font quand même, on peut le dire, la nuit.
Beaucoup d'épandages, certains qu'on a quand même déjà vu et entendu professionnels qui disaient que et il faut qu'on montre moins les pulvérisateurs au
public.
Tout
à fait, tout à fait. Alors
ça se fait la nuit. On dit oui, mais c'est que les conditions sont réunies, etc. Mais c'est surtout pour qu'on les voit beaucoup moins. Il y a quand même toutes ces histoires de chiffres. Moi, ça me laisse un petit peu perplexe. Par exemple, la réduction de 50% dont on parlait, il faut savoir que ça ne veut pas dire grand-chose quand on sait que les produits sont de plus en plus puissants. L'industrie phytosanitaire n'a pas attendu pour justement évoluer et mettre des produits beaucoup plus puissants à des doses beaucoup plus faibles.
Voilà. Et puis justement, alors, autre problème majeur, et là on ne comprend plus du tout, les agriculteurs qui n'ont pas tous compris que les pesticides nous empoisonnent, mais les empoisonnent aussi. Et alors, eux, la plupart, on va dire pas tous, hein, surtout, on ne fait pas de généralité.
Non, non, faut pas généraliser.
La plupart ne veulent pas du tout de zone de non-traitement. Ce qui est aberrant.
Bah oui, bah c'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, on revient à ce que je disais, c'est que ces zones de non-traitement, ça veut dire que ça met l'accent sur, ça pointe la dangerosité des produits. Et je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont prisonniers d'un système qui les oblige bien à utiliser ces produits, mais aussi à s'endetter, à acheter des semences. Et donc, on va pas leur jeter la pierre parce qu'ils sont vraiment prisonniers de ce système et ils ont du mal à s'en sortir. Et puis, faut savoir qu'entre eux, bah, c'est pas non plus toujours la très grande entente, hein. Il y en a qui attendent calmement ou peut-être même avec un peu de rapidité que bah, certains se cassent la figure pour récupérer les terres et puis agrandir leur exploitation. Donc heureusement, il y en a quand même de plus en plus qui ont ouvert les yeux, puis qui ont modifié leurs pratiques, sans forcément se convertir au bio complet. Hein. Moi, je connais des agriculteurs qui n'utilisent plus du tout de glyphosate, et qui s'en sortent très bien, et qui ne sont pas des petits agriculteurs.
Enfin, en tout cas, une question, ne sommes-nous pas en train de marcher sur la tête? Alors, je pense justement que c'est à nous, consommateurs, d'agir, et nous pouvons le faire de plusieurs façons, hein, c'est-à-dire signer les pétitions, participer donc à cette consultation publique, et puis n'acheter que des produits issus de l'agriculture bio, ce qui encouragerait quand même les agriculteurs qui ont déjà fait la démarche pour produire sain, et puis sans doute les autres à en venir à adopter cette même attitude. Alors ce n'est pas contre les agriculteurs ce n'est pas être contre les agriculteurs que de leur demander de mettre des produits sains et naturels dans notre assiette. En plus, je connais des agriculteurs qui vendent leurs cultures polluées et qui, eux, ont un coin de jardin non traité pour leur consommation personnelle. Cela veut tout dire, n'est-ce pas, Jean-Louis?
Bah oui, tout à fait. Donc, je pense que ce sont les consommateurs qui vont faire bouger les lignes. Hein, et donc, on revient toujours à choisir, c'est agir. Mais je pense que les consommateurs sont en première ligne pour justement faire bouger les choses. Et c'est en train de bouger. Je pense que c'est par eux que ça viendra. Bon, il ne faut pas attendre que ce soit les multinationales agroalimentaires et puis les professions agricoles elles-mêmes qui fassent bouger les lignes. Ça viendra des consommateurs.
Hein. Bien sûr, bien sûr.
Il faut que les produits, le nerf de la guerre, c'est la vente.
Tout à fait. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Et nous ne manquons pas de la suivre, bien sûr, n'est-ce pas Jean-Louis, car il va de notre santé. Alors, on ne se retrouve pas la semaine prochaine, hein?
Non, on ne se retrouve pas la semaine
prochaine.
Puisque
je ne serai pas là.
On se retrouvera le 7 octobre.
Le 7 octobre, voilà. Et le 7 octobre, nous parlerons du marché du mieux vivre, avec peut-être une petite parenthèse pesticides, mais nous parlerons surtout du marché du mieux vivre.
Voilà, qui se tiendra le dimanche 13 octobre, et c'est un anniversaire, puisque c'est le 30e anniversaire, à 30 années que bah, nous essayons de faire avancer les choses, et on voit que ce sont devenus des sujets brûlants d'actualité.
Bien sûr. Donc, à dans 15 jours, Jean-Louis.
À dans 15 jours.
À bientôt.
À bientôt, bonne semaine.
Merci.
Rapaces de la mondialisation sont si voraces qu'on y laissera nos caleçons. Leur seul langage en réponse à nos questions, c'est bien dommage, c'est celui de la répression. Ils nous dictent ce qu'on aime, ils imposent au monde entier leurs films ou leurs OGM qu'on achète sans sourciller. Ils distribuent de la farine aux pays où les sous-sols par hasard ont du platine, de l'or, du pétrole. Tous les rapaces de la mondialisation sont si voraces qu'on y laissera nos caleçons. provoque des famines, propose des guerres clés en main. Sans vergogne, ils éliminent ceux qui encombrent leur chemin. Ils s'approprient l'eau, la terre et ces nouveaux Stakhanov. Relouquent les forêts primaires, un hôtel de golf. Tous les rapaces de la mondialisation sont si voraces qu'on y laissera nos caleçons. Des braves Yankees rachètent au peuple déshérité qui ne saccage pas la planète leur permis d'empoisonner. Sous les arbres séculaires, des pauvres gens meurent du sida. On adoucit leur calvaire au Coca-Cola. Rapaces de la mondialisation sont si voraces qu'on y laissera nos caleçons.
Pierre Perret sur Radio Plus, et après cela, eh bien, c'est tout à fait logique de retrouver Bertrand Trinel pour notre jardinage bio.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Eh oui, ça y est, depuis hier, l'été est terminé, alors on oublie les plages, le soleil, la chaleur et les vacances. L'automne est arrivé, et comme chaque année, on ne peut rien y faire. Mais ce n'est pas une raison pour croire que l'automne s'est pourri. L'été, il paraît que c'est cool, mais on dit souvent que c'est l'automne la meilleure des saisons. Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine, et bonjour aux auditeurs.
Alors qu'en pensez-vous, justement, vous, en tant que jardinier ?
Alors personnellement, moi j'aime toutes les saisons, et c'est vrai que j'aime particulièrement le printemps et l'automne. Le printemps, parce que c'est la sortie d'hiver, la nature se réveille, les arbres qui étaient complètement dénudés depuis des mois se parent de nouvelles feuilles, de fleurs, des plantes vivaces sortent avec une exubérance incroyable. Et puis effectivement, l'automne, c'est le moment où la nature va s'endormir. Peu à peu, les feuilles vont tomber, mais auparavant, avant de tomber, elles nous offrent toute une palette de couleurs, leur décor est vraiment magnifique. Et puis l'automne, c'est la saison également des récoltes, les courges, les betteraves, les carottes, les céleri, tous les légumes qu'on va stocker. On récolte également les fruits du verger, notamment les pommes. C'est vraiment la saison de l'abondance. Et puis l'automne, c'est la saison des pluies, et j'espère qu'elles seront bien rendez-vous cette année.
Ça a bien commencé hier. J'ai pensé à vous hier. J'ai dit, oh là là, j'en connais un qui doit se réjouir, mais on sait, pour la plupart d'entre nous, nous nous sommes réjouis avec vous. Alors justement, en parlant de pluie, on dit que l'automne est pourri, Bertrand. Bon, on le souhaite de tout cœur, finalement. Charles Trenet chantait « Il pleut dans ma chambre, douce pluie de septembre ». La chanson est peut-être à revoir, et pourtant on n'oublie pas le dicton « Pluie de septembre, joie du pays ». Pluie de septembre est bonne à semailles et à vignes. Et puis celui-ci, septembre humide, pas de tonneau vide. Alors je dis cela pour les grincheux.
Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se peignent de la grisaille. Pourtant, on a vraiment un grand besoin de pluie et ça doit recharger nos nappes phréatiques. Alors ça semble tout à fait normal de prendre une douche, de tourner le robinet, puis de voir l'eau couler. Mais cette eau, elle vient bien de quelque part.
Bien sûr.
C'est le cycle des saisons, c'est le cycle de la vie. Alors il faut prendre plutôt les pluies d'automne comme une bénédiction au lieu de se plaindre. Ça semble aussi normal d'acheter des victuailles dans les grands magasins qui débordent de nourriture. Mais là aussi, ça vient de quelque part, cette nourriture. Donc on a besoin d'eau pour nous nourrir.
Bien sûr. Alors justement, vous l'aviez dit, en parlant de nourriture, vous l'aviez dit, à cette époque de l'année, comme chacun sait, c'est la récolte des pommes. Et celle-ci peut se prolonger quelquefois tout l'automne. Alors la pomme, c'est presque une tradition de nos vergers. Alors d'abord Bertrand, je crois qu'il faut insister sur le fait que justement dans le cadre manger sain, en faisant un geste pour l'environnement, on peut manger des pommes bio cultivées dans notre région.
Oui, c'est vrai que l'automne, c'est aussi la récolte des pommes, comme je l'avais dit juste avant. C'est un excellent fruit pour notre santé, bien sûr à condition qu'il soit issu d'une agriculture biologique. Donc nous, dans la région, on a la chance d'avoir pas mal d'arboriculteurs bio. Alors profitons-en pour en manger de ces bonnes pommes. Alors, et comme disait juste avant Jean-Louis, il faut pas oublier que ce sont nos achats qui font qu'il y a plus ou moins de culture biologique. Les agriculteurs ou arboriculteurs conventionnels ne font que répondre à la demande des consommateurs qui veulent toujours le moins cher possible. Voilà. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi une chose sur les pommes, c'est que le budget sur les pommes, sur la nourriture, le budget consacré à la nourriture représentait à peu près 40% des salaires. Maintenant, je crois que c'est autour de 10 à 15%. Par contre, l'habillement et les loisirs, ça a pris une ampleur phénoménale. Alors moi, je pense que la priorité pour notre santé, c'est quand même de bien manger.
Tout à fait.
C'est notre bien le plus précieux, la santé, faut pas l'oublier.
Je crois, Bertrand, que le pommier est sans doute le premier fruitier que l'on met dans un verger. Hein. Alors, comme vous dites, formidable de pouvoir manger une pomme cueillie chez soi et surtout sans aucun traitement phytosanitaire, car il faut savoir que les pommes non bio sont les fruits les plus traités en France et sont porteuses de résidus de pesticides.
Alors, le pommier, c'est un arbre bien adapté à notre région. Dans le Nord, ça pousse très bien. Sa culture, c'est relativement simple. Alors c'est pourquoi de nombreux jardiniers vont le planter dans leur jardin. Alors, l'arbre ne nécessite aucun traitement chimique particulier, et on se régale effectivement de nos pommes cultivées de façon naturelle. Alors, bien sûr, il n'y a pas toujours une couleur, une forme uniforme, ça c'est sûr. Par contre, dans le commerce, on va trouver sur les étals quelques variétés, pas beaucoup, mais pour chaque variété, les pommes sont quasiment identiques, toutes de même couleur, de même grosseur, bien brillantes, et c'est vrai qu'elles ont l'air appétissantes. Mais attention, il y a un dicton qui dit « l'habit ne fait pas le moine ». Donc c'est exactement le cas avec ces pommes qui ont reçu en moyenne 36 traitements et divers pesticides. Hein. Mmh. Ben moi je vous dis bon appétit. Hein. Mais là encore, c'est parce que les consommateurs que nous sommes les achètent en priorité.
Mmh.
Hein. Et alors, si on veut que le monde change et que l'humanité n'aille pas dans le mur, on va devoir changer nos habitudes alimentaires, ça c'est sûr.
C'est un petit peu comme la tomate finalement, la pomme.
Exactement.
Mmh. Un petit peu pareil, elles sont belles, elles sont bonnes, mais elles n'ont aucun goût. Enfin, elles sont belles, elles ont un bel habit, comme vous dites,
oui.
Mais elles n'ont aucun goût. Voilà, alors, justement, à ce propos, je vais me faire l'avocate du diable. Certains diront que la pomme est très souvent attaquée par les vers et les insectes, ce qui impose que...
Oui. Alors, bien sûr, les fruits peuvent attaquer par les vers et les insectes. Hein. Il n'y a pas que nous qui aimons les pommes, c'est évident. Mais est-on obligé de toujours tout détruire pour pouvoir manger une pomme? Est-ce impossible d'éviter des traitements aux pesticides qui vont tout détruire, toute forme de vie? Alors, moi, si votre réponse est oui, il faudra m'expliquer comment les arboriculteurs bio, respectueux de la nature, peuvent produire de belles et succulentes pommes, hein, qui font du bien à notre santé. Alors, si les producteurs bio y arrivent, pourquoi les autres ne peuvent pas y en faire autant? Alors, les méthodes de culture sont peut-être un peu contraignantes, c'est vrai, en bio, hein, mais au bout du compte, c'est la sauvegarde de la biodiversité, et sans laquelle, nous, l'humanité, on est condamnés. Les uns sont condamnés sans ça, quoi.
Alors, beaucoup de jardiniers récoltent un certain nombre de pommes qu'ils essaient de conserver. Alors, quelle est votre façon de faire, Bertrand, pour garder ces fruits le plus longtemps possible?
Alors, déjà, autant que possible, on récolte ces fruits à la main. On ne doit pas les entrechoquer, il ne faut pas qu'elles tombent, sinon on risque de s'abîmer et de ne pas conserver. Quand on a récolté tous nos fruits, on va faire une sélection, on va éliminer les fruits qui sont un peu véreux, qui sont un peu abîmés, hein, pour en faire des confitures, de la compote ou encore des jus de fruits. Et puis les fruits sains, on va les entreposer sur des étagères côte à côte, sans qu'elles se touchent. Alors, bien sûr, dans une pièce hors gel, hein, attention, il faut que ce soit hors gel et à l'abri de la lumière. Et puis elles vont conserver très bien pendant des mois. Il suffit de passer de temps en temps, vérifier que tout va bien. Bien sûr, de passer pour en prendre, pour les manger, c'est évident aussi. Hein. Et puis voilà, puis il n'y a aucun problème pour conserver des pommes. Hein. Et d'autant plus que certaines pommes de garde, s'améliorent, leur qualité gustative vont s'améliorer avec le temps.
Alors, pour les fruits qui ne peuvent être conservés, ils peuvent être transformés. Souvent, ils le sont en jus de pomme. Et d'ailleurs, votre association est maintenant équipée d'un extracteur de jus.
Alors oui, c'est une demande de nos adhérents. Hein. Donc on est équipé d'un broyeur, d'un pressoir hydraulique et d'un pasteurisateur, ce qui nous permet de faire de bons jus de pommes qui se conservent très longtemps. Et puis notre prochain pressage, je crois qu'il aura lieu mi-octobre.
Mi-octobre, voilà, oui. C'est vrai qu'il y a pas mal d'associations, d'ailleurs, qui se mettent à presser les pommes. Ça veut dire qu'il y a, en effet, beaucoup de pommiers dans la région.
Il y a énormément de pommiers dans la région, il y a beaucoup de demandes. Et ce qui est bien, c'est que dans la région, de plus en plus, on remet des anciennes variétés de pommiers qui étaient justement bien adaptées à notre région.
Mmh.
Il y a une multitude de... c'est un peu comme les tomates, hein. Il y a une multitude de variétés de pommes et chacun va trouver la pomme qui l'appréciera, quoi.
Tout à fait. Et puis on ajoute aussi que les pommes peuvent aussi se congeler. Attention, lorsqu'elles ont été cuites, on peut aussi les mettre en bocaux. Hein.
Oui, tout à fait. On peut en faire des compotes, on peut en faire des confitures, on peut faire des jus. Alors on peut les cuire au four également. Il y a certaines pommes qui sont très adaptées à la cuisson au four. Et puis effectivement, lorsqu'on les cuit, on peut du coup les mettre au congélateur, sans aucun problème.
Et alors, comme vous le disiez, eh bien, on insiste sur le fait que la pomme nous aide à rester en bonne santé. Une pomme par jour éloigne le médecin, dit-on souvent.
Oui, une pomme par jour éloigne le médecin, mais il faut bien viser. Hein. C'est ce que disait Churchill. C'est une plaisanterie de Churchill. Mais oui, bien, une pomme par jour peut éloigner le médecin, à condition qu'elle soit bien sûr bio. Mmh. Alors la pomme va renforcer notre système immunitaire Et d'après certaines études, une pomme par jour diminue le problème, les problèmes cardiovasculaires.
Tout à fait.
Alors, les études montrent également que les pommes de nos étals possèdent beaucoup moins de vitamines que nos variétés anciennes. Enfin, que pas toutes les variétés anciennes, parce que certaines variétés anciennes n'ont pas trop de vitamines, mais que la plupart de nos variétés anciennes. Donc, cultiver des pommes dans votre jardin, c'est bien aussi, ou manger des pommes bio.
Eh bien, allons croquer la pomme. Alors, ce n'est pas un fruit défendu, voilà. Alors, merci Bertrand, et on se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, c'est-à-dire le lundi 7 octobre. Et puis, Bertrand, ceux qui aiment les beaux jardins peuvent aussi visiter dimanche prochain le jardin d'Astrée à Averskerk de 10h à 18h. Le jardin d'Astrée, eh bien, c'est 2000 mètres carrés de vraie nature au cœur de la vallée de la Lys, un jardin naturel, sans traitement chimique, avec 1200 plantes vivaces, arbres et arbustes. Le but de l'ouverture du jardin est l'échange entre passionnés de la nature et son respect. Et puis, on peut aussi, dimanche prochain, visiter le jardin de l'ermite.
Alors, non, justement, non. On s'est trompé de week-end.
Ah, d'accord.
C'était ce week-end.
Ah,
ces deux jardins étaient ouverts ce week-end. Alors, jardin serait peut-être encore ouvert la semaine prochaine.
Oui, il est encore ouvert la semaine prochaine, le jardin.
Nous étions ouverts avec les ouvertures des jardins, avec Jardin Passion. Jardin Passion ouvre deux fois et tous les jardins sont ouverts deux, pas régulièrement, mais principalement deux fois en juin et c'était le dimanche dernier.
D'accord.
Et samedi dernier. Donc, nous avons reçu des visiteurs samedi et dimanche au jardin de l'ermite. Voilà.
D'accord. Et donc, la prochaine... Et puis, de toute façon, on peut y aller quand on veut visiter votre jardin.
Le mercredi,
voilà.
Oui, voilà.
Merci Bertrand. Très bonne journée à vous. Très bonne semaine.
Allez, très bonne journée.
Et puis, attends 15 jours. Monde, hein. Merci. Au revoir. Au revoir.
Pourquoi pas qu'on s'assoie sous un pommier à pommes, bien assis, bien assoi. On attend qu'elle tombe. Pourquoi pas qu'on boira de l'eau de la rivière, dans le creux de ses doigts, dans le lit de la pierre. Il fait comme il voudra, l'avion Paris-Stockholm. J'ai besoin de personne quand ma pomme à ton bras. Pourquoi pas qu'on ira labourer dans la neige. Quand la neige affondra, il y aura le blé qui lève. Je prendrai mon fusil pour chasser du chemin la mauvaise compagnie des chasseurs et des chiens. Il fait comme il voudra, l'avion Paris-Stockholm. J'ai besoin de personne quand mon blé pointera. Pourquoi pas qu'on cassera la pendule de la gare. Comme ça tout le monde y sera, ou trop tôt ou trop tard. Ça gênera pas le coq, ni ses cocoricots, ni l'appétit du loup, ni la peur de l'agneau. Il fait comme il voudra, l'avion Paris-Stockholm. Il sera l'heure qu'on voudra sous le pommier à pommes.
Le pommier à pommes, c'était Gilbert Bécaud. Il y a un poème qui dit « Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom, liberté ». Alors, beaucoup connaissent bien sûr ce poème de Paul Éluard. Alors, ce week-end, c'est-à-dire ce vendredi 27 septembre, samedi 28 et dimanche 29, c'est autour de ce concept de liberté que le photoclub d'Annecin présentera son exposition annuelle, des photos bien sûr, mais aussi des films, car ce sera la fête de l'image dans toute sa splendeur. Jean-Philippe Robert, bonjour.
Bonjour Martine, bonjour chers amis de Radio Plus, toujours fidèle à cette exposition de septembre. Bonjour.
C'est donc devenu une tradition chaque année à cette même époque, votre club photo Taniflo invite le public à venir échanger autour de la photo. Alors vous insistez bien, Jean-Philippe, il s'agit bien d'échange.
Oui, une photo, c'est une expression. Expression qui se compose à l'aide de la technique de l'image, bien sûr, mais surtout qui s'interprète entre nous. Car nous avons de différentes cultures. L'un comprendra cette image comme ça, l'autre autrement. Alors, échangeons nos points de vue.
Alors, on peut peut-être citer quelques-unes des personnes présentes.
Nous avons été des élus, bien sûr. Les élus sont très importants. C'est eux qui œuvrent et qui protègent notre liberté. Et ces élus ne se représentent pas en Mars. Un maire de Haute-Marne, un maire du Pas-de-Calais, qui ont œuvré pour la liberté. Et aussi Chris Garcia, un jeune cinéaste parisien, encore étudiant, qui travaille sur la reconstruction des victimes de toute violence, se trouve enfermé, ces victimes se trouvent enfermées dans leur esprit, dans leurs mots, suite à cette agression et même dans leur corps, des fois.
Alors justement, Jean-Philippe, vous avez choisi comme thème cette année la liberté et vous voulez mettre en évidence que finalement, être libre, ce n'est pas forcément posséder à tout prix. Votre philosophie est un peu en quelque sorte, mieux vaut être un oiseau libre.
Les savages commencent par l'habitude du toujours plus. On devient esclave de ses envies, de ses jalousies. Et cette aigreur nous fait oublier la beauté d'un coucher de soleil ou la joie d'une rencontre même avec une personne qui habite dans le village voisin. C'est cela être libre, se rencontrer.
Alors justement, ça se traduit comment en photo cela? Comment se dégagera cette notion de liberté dans ces images, ces photos ou ces films exposés?
Pour montrer le sens de liberté, il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées. Soit une mosaïque, une redondance d'insigne, soit le reportage d'un événement dédié à la liberté, ou une œuvre artistique dédiée à un regard nouveau sur la liberté. Il y aura tout dans cette exposition. N'hésitez pas, vous verrez de tout, vous verrez des tas de mélanges, vous verrez des tas d'expressions, vous verrez des tas de choses.
Alors en tout cas, il y a une chose qui passe avant tout chez vous, c'est le respect. Alors j'explique, une photo n'est valable à vos yeux que si elle respecte l'être en face de soi, qu'il soit humain ou animal, et si elle respecte le milieu, alors bien souvent la nature, et je rappelle que vous êtes, vous, avant tout, photographe animalier.
Oui, je suis photographe animalier, mais je suis surtout de base photographe. C'est-à-dire, je suis un photographe de base, qui construit et crée une image, toujours en m'interrogeant sur le devenir de mon image. À quoi sert de montrer une personne si les conséquences suite à cette photo la détruisent? Je ne parle pas des spots lumineux, des spots nature. Être photographe, c'est protéger la vie. Ce n'est pas jouir uniquement, mais en s'engager vers les autres et la nature.
Alors Jean-Philippe Robert, quels sont vos partenaires pour cette exposition?
Alors le partenaire, c'est bien sûr le Grand Festival de Mont-Thionnaire, qui est le festival le plus grand d'Europe et le deuxième au monde. Le GIC, le groupe Images Contemporaines de Béthune, les Déclencheurs, le Photo Club de Sainte-Catherine et tant d'autres. Des photographes de Haute-France, du Grand Est, de Belgique, des cinéastes de Paris, 60 photographes, 10 cinéastes, les magasins Fox, bien sûr, les villes d'Anzin et de Plan-Rue en Haute-Marne.
Alors, vous attendez donc le public ce vendredi, samedi et dimanche à la salle des sports d'Anzin. C'est la salle Armand Druon et vous pouvez peut-être nous rappeler les horaires de visite.
Oui, vous venez de 9h à 18h non-stop. Vous pouvez même venir pendant midi, si vous avez 2 minutes le vendredi. L'entrée est gratuite. C'est 3 jours de rencontres et de convivialité. Du café sera servi à gogo. Tout le monde aura son café. Au moins que vous n'aimez pas le café, bien sûr.
Oui, moi je n'aime pas le café, mais bon. Par contre, j'aime beaucoup la photo. Alors, et puis, bon, il faut préciser aussi que les enfants des écoles ont largement contribué à ce projet.
Oui, des classes sont même investies dans les projets académiques du cinéma. D'autres font des travaux photos, d'autres ont fait un travail sur la liberté. Ce bouillon de culture d'enfants, ce bouillon de culture aussi bien, est très sympathique. Les maternelles, 2 classes de maternelles sont venues, 2 classes élémentaires sont venues. Ils vont venir, bien sûr. Ils sont venus, je dis sont, mais ils vont venir. Mmh. C'est prévu.
C'est donc à Anzin ce week-end, voilà, à partir du vendredi, samedi et dimanche, voilà, vous avez dit de 10h à 18h
De 9h
à 18h sans interruption, c'est-à-dire que le midi aussi, on peut profiter de l'heure de midi, du midi, pour aller vous rendre visite.
Et si vous voulez manger là, vous pouvez, il y a un petit tas pour manger, il n'y aura pas de problème.
D'accord.
Pas la restauration.
Merci Jean-Philippe, et puis permettez-moi d'ajouter ceci sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Voilà. Merci.
Et vous êtes libre, vous, amateur de Radio Plus, de venir ou de pas venir, bien sûr.
Mais merci à Paul Éluard pour ses vers et merci à vous Jean-Philippe.
Au revoir Martine.
Et très bonne réussite pour cette exposition. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Garde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il leur raconte des histoires. Il les emmène par-delà les labos, chevaucher les licornes à la tombée du soir. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur, il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qu'il se raconte? C'est ça qu'il faudrait savoir. Pour avoir comme lui autant d'amour dans le regard. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
Eh bien oui, soyez libre, vous aussi, libre de vos choix. Alors, cette exposition sur, qui a pour thème, cette exposition de photos qui a pour thème la liberté se passera à l'espace Armand Druon à Anzin. Voilà, je vous souhaite une très bonne matinée. Je vous dis peut-être à tout de suite dans Kaléidoscope avec sa musique et ses chansons. Et puis pour l'air du temps, eh bien nous nous retrouvons non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Et là, tout de suite, à tout de suite pour la musique.